Nous sommes le mardi 30 juillet 2024, il est 5h30 en temps universel. Bonjour à tous, bienvenue au Monde aujourd'hui, présenté par Nanit Talani en direct de Washington depuis le studio 8 de la Voix de l'Amérique. Au sommaire de cette édition, en RDC, peine de mort requise contre 25 accusés, dont Corneille Nangaa, l'ancien patron de la CENI, dans le procès du M23. L'ANC exclut Jacob Zuma sur fond de conflit avec son nouveau parti, Umkhonto Wesizwe. En Guinée, la junte présente un avant-projet de nouvelle constitution. Le président sénégalais Diomaye Faye publie son patrimoine conformément à la loi. Combat sanglant au Mali, l'armée admet des pertes importantes. Nous y reviendrons dans notre section magazine avec l'analyste Ali Tunkara. Nous irons aussi au Kenya où les journalistes protestent contre les attaques, les restrictions et les violences. Également au menu du Monde aujourd'hui, le journal des JO, nous ferons le point sur les médailles avec le Japon qui brille et la France en pole position hier. En attendant, voici le journal. En République démocratique du Congo, la peine de mort a été requise hier contre 25 de 26 accusés, dont 21 en fuite, jugés par une cour militaire à Kinshasa pour leur participation à la rébellion du M23. 20 ans de prison ont été requis par le ministère public contre le 26e prévenu. Le point avec Rosine Munezero.
À l'ouverture du procès, le 24 juillet, les accusés étaient 25, dont 20 en fuite et jugés par défaut, mais un prévenu, un ancien porte-parole du M23, a été ajouté par la suite. Ils sont tous poursuivis pour crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel ou trahison, des faits pour lesquels l'accusation a requis la peine capitale. Le principal accusé est Corneille Nangaa, ancien président de la commission électorale, qui a annoncé en décembre dernier la création d'un mouvement politico-militaire, l'Alliance Fleuve Congo, incluant le M23. La liste des prévenus contient aussi le président du M23, Bertrand Bisimwa, son chef militaire Sultani Makenga, ses porte-paroles Willy Ngoma et Lawrence Kanyuka. Certains chefs du mouvement rebelle ne sont pas sur cette liste, qui comporte en revanche les noms des membres du parti de l'ancien président Joseph Kabila qui ont rejoint l'AFC. Les plaidoiries de la défense sont prévues dans l'après-midi ce mardi. La tenue de ce procès a été annoncée 2 jours avant son ouverture par les services du ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui a assisté en personne à la première audience.
Au Mali, l'armée a reconnu hier un nombre important de morts après des combats en fin de semaine dernière à Zinzawat, dans le nord du pays. Les combats ont opposé les FAMA à une coalition de qualifiés de terroristes par Bamako. Les détails avec Jean-Roger Bion.
La bravoure et la détermination exemplaire de nos soldats n'ont pas permis d'éviter un nombre important de pertes en vies humaines et matérielles, a concédé l'état-major des armées maliennes dans son communiqué lu à la télévision nationale. Ces combats d'une ampleur inédite depuis des mois ont éclaté jeudi dans la localité de Tinzawaten. Dimanche, une alliance de groupes armés à dominante Touareg a revendiqué une victoire éclatante contre l'armée malienne et ses alliés russes du groupe Wagner. Les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ont aussi affirmé avoir participé à une attaque et tué 50 Russes et 10 Maliens, des chiffres non confirmés. Les rebelles ont diffusé plusieurs vidéos où gisent de nombreux cadavres, même si aucun bilan précis n'est disponible pour l'heure. Lundi, une chaîne Telegram associée au groupe paramilitaire russe a diffusé des détails sur ces affrontements dans le nord du Mali, confirmant des pertes dans les rangs des Russes et la mort d'un commandant.
Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a déclaré son patrimoine au Conseil constitutionnel, selon le journal officiel rendu public hier. Ses deux prédécesseurs avaient aussi rempli cette obligation légale. Le point avec Alexandrine Hologno.
Le patrimoine de Bassirou Diomaye Faye comprend 2 comptes bancaires, crédités respectivement de 14,7 millions de francs CFA et de 7,4 millions de francs CFA. Un troisième compte d'épargne à un solde de 2690 francs CFA. Le chef de l'État sénégalais a contracté 2 prêts bancaires pour lesquels il doit payer respectivement 6,4 millions et 24,4 millions de francs CFA. La liste de ses biens comprend un véhicule Ford et une maison de 200 mètres carrés, dont la valeur du terrain nu est de 140 millions de francs CFA. Les travaux qui y ont été faits sont à peu près du même montant. Son patrimoine inclut aussi un terrain de 80 mètres sur 40 dans son village d'origine, Djaganyao, un terrain agricole de 4,3 hectares sur lequel il a fait des investissements d'un montant de 29 millions de francs CFA. Il dispose aussi d'un terrain nu de 202 mètres carrés dans un autre village voisin. Bassirou Diomaye Faye, élu le 24 mars, a un salaire mensuel de 4,8 millions de francs CFA en tant que président. Ses prédécesseurs Abdoulaye Wade et Macky Sall avaient également rempli une déclaration de patrimoine après leur entrée en fonction, une obligation légale inscrite dans la constitution sénégalaise depuis 2001.
Les militaires au pouvoir en Guinée ont présenté hier un avant-projet de nouvelle constitution qui devrait être soumise à référendum avant la fin de l'année. L'avant-projet prévoit notamment une limitation des mandats à deux, l'instauration d'un système de parrainage pour l'élection présidentielle, un âge minimum de 35 ans et de 80 ans maximum pour se présenter, la mise en place d'un nouveau parlement avec deux chambres, une assemblée nationale et un sénat. Des sessions de travail thématiques devraient être organisées très prochainement pour enrichir le document avant sa remise au président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a dit le président du CNT dans sa Kourouma. En Afrique du Sud, l'ANC a exclu hier de ses rangs l'ancien président Jacob Zuma. C'est la suite d'une procédure disciplinaire l'accusant d'avoir mené un parti rival aux dernières législatives. Davantage avec Lionel Gaïma.
Jacob Zuma a porté atteinte à l'intégrité de notre parti et a fait campagne pour déloger l'ANC du pouvoir, a déclaré le secrétaire général de l'ANC, Fikile Mbalula, précisant qu'il est donc exclu du parti. L'ANC avait déjà suspendu M. Zuma en janvier, un mois après son alliance avec le tout récent parti Umkhonto-we Sizwe. Le MK a fini troisième aux dernières législatives avec 58 députés sur 400 au Parlement, alors que l'ANC subissait son pire score depuis trois décennies, l'obligeant à former un gouvernement de coalition inédit avec le premier parti d'opposition, l'Alliance démocratique. Le MK, pour sa part, a dénoncé une grave injustice infligée à M. Zuma, 82 ans, qui dispose de 21 jours pour faire appel. Jacob Zuma avait rejoint l'ANC à son adolescence dès 1959. Il a passé 10 ans au bagne de Robben Island avec Nelson Mandela avant de devenir le redouté chef de service de renseignement de l'ANC pendant la clandestinité. Il a été élu président en 2009 et poussé à la démission en 2018 après une série de scandales de corruption.
Au Maroc, le roi Mohamed VI a gracié hier trois journalistes et un intellectuel qui étaient emprisonnés ou poursuivis par la justice depuis des années et dont des ONG ne cessaient de réclamer la libération. Connus pour leur critique du pouvoir, les journalistes Omar Radi, Souleymane Rassouni et Taoufik Bouakrine avaient rejeté les accusations d'agression sexuelle retenues contre eux, estimant qu'il s'agissait d'une manière de les punir à cause de leurs opinions. Historien et défenseur des droits humains, franco-marocain Mati Mondib, 62 ans, avait été condamné en 2021 à un an de prison ferme pour fraude et atteinte à la sécurité de l'État. Un responsable marocain a indiqué que les trois hommes font partie des 2476 personnes dont la grâce a été annoncée par le ministère de la Justice à l'occasion de la fête du trône célébrée ce mardi, marquant l'intronisation de Mohamed VI il y a 25 ans.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le premier ministre haïtien Garry Conille a été évacué hier sain et sauf d'un quartier de la capitale Port-au-Prince où des membres de gangs avaient ouvert le feu, a indiqué une source gouvernementale. Le dirigeant haïtien finalisait une visite de l'hôpital de l'Université d'État, le plus grand hôpital du pays, lorsque des individus ont tiré à l'arme automatique dans la zone, a indiqué ce responsable sous couvert d'anonymat.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Tournons maintenant notre attention vers notre incontournable rendez-vous du journal des JO de Paris. Après une journée palpitante, le tableau des médailles d'or a déjà révélé des performances impressionnantes. Le Japon se distingue en tête avec 6 médailles d'or, soulignant son excellence dans une variété de sports. Eric Manirakiza nous en dit davantage.
Après la journée d'hier lundi aux Jeux Olympiques de Paris 2024, le tableau des médailles d'or a révélé des performances remarquables de plusieurs pays. Le Japon mène le classement avec un total de 6 médailles d'or, affirmant sa domination dans divers sports. La France, pays hôte, a réalisé une excellente performance, partageant la deuxième place avec la Chine, l'Australie et la Corée du Sud, chacun avec 5 médailles d'or. Cette égalité montre une compétition féroce et des talents diversifiés parmi les nations. Les États-Unis suivent avec 3 médailles d'or, tandis que la Grande-Bretagne, l'Italie, le Canada, Hong Kong et l'Allemagne ont chacun remporté 2 médailles d'or. Ces résultats reflètent des succès dans des disciplines variées et soulignent la compétitivité des équipes. Enfin, l'Afrique du Sud, le seul pays sur le continent africain, le Kazakhstan, la Belgique, l'Azerbaïdjan, l'Ouzbékistan et la Roumanie ont chacun gagné une médaille d'or. Ces pays, bien que moins représentés en termes de médailles, ont marqué leur participation par des performances notables. En termes de total de médailles, les États-Unis se placent en tête avec un total impressionnant de 20 médailles. La France suit avec 16 médailles, tandis que le Japon et la Chine en comptent chacun 12. La Grande-Bretagne possède 10 médailles au total. Les autres pays restent en deçà de la barre des 10 médailles. Ce classement encore évolutif témoigne de la diversité et de la richesse des talents présents à ces Jeux Olympiques, promettant encore de nombreuses surprises et de belles compétitions. À noter que dès les premiers Jeux de l'ère moderne en 1896, l'athlétisme occupe la place d'honneur, déclinaison parfaite de la devise olympique « Sitius altius fortius », plus vite, plus haut, plus fort. Le tournoi de football féminin des Jeux Olympiques de Paris se poursuit avec la Zambie et le Nigeria, représentant fièrement l'Afrique. Côté masculin, le Maroc, la Guinée, l'Égypte et le Mali sont les seules équipes africaines en lice. Quelles sont leurs chances après les matchs joués dimanche? Suivez l'analyse de Tarsis Harelimana, journaliste olympique indépendant basé à Ottawa au Canada.
Oui, je pense que c'est vraiment une bonne progression déjà au début quand on voit qu'on gagne aussi des médailles en escrime comme Farah Fergani en sabre, donc le Tunisien, et puis en plus l'Égyptien aussi qui gagne en épée individuelle. C'est une progression, l'Afrique du Sud en rugby à 7 qui devait aller plus loin. Et puis on voit aussi des grandes équipes comme évidemment cette équipe du Sud-Soudan qui bat Porto Rico, sans oublier aussi, là on ne le dit pas, en ce qui concerne le handball féminin, l'Angola qui a battu quand même l'Espagne. On voit que au niveau des équipes, au niveau même du sport d'équipe, au niveau des sports individuels, même si il y a d'autres événements qu'on attend, l'Afrique du Sud, plutôt l'Afrique, est en train de marquer son pas. Donc, elle est en train de progresser dans d'autres domaines, dans d'autres sports qui étaient des sports plus compliqués pour l'Afrique.
Tarsis Harelimana, journaliste olympique indépendant, basé à Ottawa, au Canada. Les basketteuses australiennes, parmi les prétendantes à une médaille aux JO, ont été piégées par le Nigeria 75-62 hier lundi. Le premier match de la journée a réservé une surprise de taille. L'Australie, nation multiple médaillée olympique en basket féminin, a totalement déjoué face à des Nigérianes, mues par une énergie et une volonté énormes. Folle de joie au terme du match, les Nigérianes se sont réunies au centre du parquet et ont sauté ensemble, célébrant cette victoire comme une médaille. Les basketteuses américaines, favorites pour la médaille d'or, n'ont fait qu'une bouchée des japonaises, 102-76, hier lundi soir, pour leur début aux Jeux olympiques. Cette réédition de la dernière finale des JO a rapidement tourné à l'avantage de Team USA, qui prend la tête du groupe A, considéré comme le plus corsé du tournoi avec la Belgique, championne d'Europe, surprise par l'Allemagne plus tôt. L'Australienne Lauren Jackson est devenue à 43 ans et 79 jours la joueuse de basket la plus âgée à participer aux Jeux olympiques, hommes et femmes confondus.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nanit Talani toujours en votre compagnie. Avant de mettre un terme à ce journal, explorons d'abord nos dossiers du jour. Au Mali, l'armée poursuit son offensive dans la zone de Tizawatène, mais les FAMA ont reconnu lundi un nombre important de morts après des combats en fin de semaine dernière dans le nord du pays, près de la frontière algérienne, contre ce que l'état-major appelait une coalition de terroristes dans un communiqué. Pour une analyse de l'impact de ce tournant dans la lutte antiterroriste, Jean-Roger Bion a joint à Bamako le docteur Arine Toukala. Jean-Roger Bion a joint à Bamako le docteur Ali Toukara du Centre d'études sécuritaires et stratégiques pour le Sahel.
Il y a eu assez d'informations contradictoires au propos du nombre de morts. Il semble-t-il, lorsqu'on se réfère aux différents communiqués de l'état-major de l'armée malienne, en général, lorsqu'il y a d'affrontements entre l'armée régulière et le groupe radicaux violent, le communiqué mentionne cela. Mais le cas particulier des raisons frontalières entre le Mali ou des zones frontalières entre le Mali et l'Algérie s'expliquait par l'intensité des combats et surtout par le nombre d'informations circulant à propos, d'où l'insistance du communiqué de la part de l'état-major de l'intensité de ce combat.
Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché à Tizawatène?
Cette partie frontalière avec l'Algérie ne connaissent pas une présence effective de l'armée malienne depuis le début des années 2000. Donc, de ce fait, s'agissant des mobilités des groupes radicaux violents, des trafiquants, des migrants clandestins, sont des éléments qui permettent aux groupes terroristes et même aux groupes anciennement indépendantistes d'asseoir une certaine hégémonie financière. Donc, occuper un tel endroit aujourd'hui, naturellement, l'armée malienne a de la graine à moudre.
Quel impact aura Bémol sur l'avenir de la lutte contre le groupe terroriste dans le Nord?
Il faut probable qu'on assiste à des affrontements violents dans les semaines, voire dans les jours à venir, afin d'assurer le contrôle effectif sur ces localités aujourd'hui qui sont entre les mains de ces groupes radicaux et également ces indépendantistes. Mais est-ce que l'armée va-t-elle rester ainsi? Tout l'espoir que des ripostes pourraient être réengagées dans les jours à venir. Maintenant, sans être dans le secret, on peut s'attendre effectivement de part et d'autre à des affrontements davantage plus violents qu'on vient de connaître ces derniers jours.
Est-ce qu'il y a une place pour le dialogue en ce moment-là?
Lorsqu'on se réfère aux différents exercices qui ont eu lieu les jours, et d'ailleurs avec les militaires au pouvoir, les conclusions de ces différents assises ou les résolutions phares ressorties à sortir de ces assises ont toujours mis l'accent sur la nécessité de déclencher un dialogue substantiel avec les terroristes des nationalités maliennes. De ce fait, il est urgent aujourd'hui que cette offre de dialogue soit davantage mise en pratique par l'élite militaire au pouvoir. Donc clairement, au-delà de Tizawatène, au-delà de ces frontières algériennes, il y a quand même des poches de groupes radicaux violents, il y a des poches qui regorgeraient les anciens indépendantistes, lesquelles poches on ne peut aucunement les maintenir sous un contrôle militaire sans qu'il y ait ce dialogue. D'où toute la nécessité aujourd'hui pour l'État du Mali de déclencher ce dialogue avec ces groupes en armes.
C'était le docteur Aline Toukara du Centre d'études sécuritaires et stratégiques pour le Sahel.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Six tirailleurs africains exécutés avec des dizaines d'autres en 1944 à Tiaroy au Sénégal viennent d'être reconnus morts pour la France à titre posthume. La mention concerne quatre tirailleurs originaires du Sénégal, un de Côte d'Ivoire et un autre de la Haute-Volta devenu le Burkina Faso. Pour rappel, des troupes coloniales et des gendarmes français avaient tiré sur ordre d'officiers de l'armée française sur des tirailleurs rapatriés qui réclamaient leurs arriérés de solde au matin du 1er décembre 1944 au camp militaire de Tiaroy, non loin de la capitale sénégalaise Dakar. Au moins 35 tirailleurs avaient trouvé la mort. Que représente cette mention « mort pour la France » et quel est son impact dans ce dossier douloureux entre la France et ses anciennes colonies? Des éléments de réponse avec Mohamed Mbodj, professeur d'histoire au Manhattanville College de New York, joint par Alexandrine Holognon.
Ça veut dire qu'ils sont reconnus légalement comme ayant donné leur vie à la France et donc ils vont avoir droit à une pension, ils vont avoir droit à ce qu'on peut appeler des droits militaires. Donc, il y a des incidences pécuniaires, bien entendu, hein, ce qui concerne la pension, etc. Mais il y a aussi, surtout, ce côté juridique et moral qui fait que ce ne sont pas des gens qui sont des criminels, des mutins qui ont été exécutés, mais plutôt des soldats qui sont morts comme s'ils étaient morts les armes à la main dans le front contre les Allemands ou un autre ennemi.
Pour revenir un peu sur le contexte historique, ils étaient au moins 35 tirailleurs à avoir trouvé la mort dans ces événements de Tiaroy. On se demande si cette reconnaissance, mort pour la France, va changer la perception historique de cet événement.
Non. Tout d'abord, ces 35 morts sont même un peu dépassés par des chiffres officiels français qui montent jusqu'à 45. Et beaucoup d'historiens estiment que, vu l'ampleur et la manière dont cet incident s'est déroulé, on doit parler plutôt de centaines de morts probablement. Ça veut dire que des centaines de personnes en perspective, ou peut-être même des dizaines, même si on accepte le chiffre de 30 ou de 40, sont toujours considérés comme des mutins, c'est-à-dire des gens qui ont levé des armes contre l'armée française, contre leur propre armée. Et de ce point de vue-là, beaucoup de gens estiment que c'est inacceptable de faire ce tri.
Pourriez-vous nous aider à comprendre pourquoi c'est maintenant que la France reconnaît ces tirailleurs et pourquoi 6 personnes sur les plus de 35 qui ont été tuées?
D'une manière générale, je crois que Macron essaie de soit de freiner ce qu'on peut appeler une pente anti-africaine, anti-noire en France, en rappelant aux Français le rôle joué par les Noirs et etc. et les Africains dans le destin de la France, en particulier dans les années 40. D'autre part, beaucoup de gens pensent qu'il le fait aussi pour redorer l'image de la France en Afrique. Et en ce qui concerne le front électoral en France, on sait très bien que c'est aussi une sorte de clin d'œil à la gauche française, de clin d'œil à beaucoup de gens en France qui estiment que le traitement des Noirs, d'une manière générale, et pas seulement d'ailleurs les immigrés, mais au-delà des immigrés, les tirailleurs qui ont donné leur sang et leur vie en France.
C'était Mohamed Mbodj, professeur d'histoire au Manhattanville College de New York. Les attaques, arrestations et restrictions imposées aux journalistes, notamment sur la couverture des manifestations de jeunes, suscitent l'inquiétude des médias kényans. Les journalistes protestent contre ces mesures. Reportage de Juma Majonga à Nairobi. Le récit est de Gabi Dorsil.
Des journalistes qui défilent dans la capitale kényane, Nairobi. C'est l'une des nombreuses manifestations organisées dans tout le pays, dénonçant les attaques de la police contre les médias qui couvrent les manifestations menées par les jeunes. Stephen Leto est un journaliste participant à la manifestation.
Ce que nous essayons de dire, c'est que nous sommes également opposés à la censure des médias. Nous sommes opposés à ce que le gouvernement nous dicte, ce qu'il veut que nous diffusions. Mais nous voulons avoir le droit et l'opportunité de nous exprimer librement et de nous assurer que nous transmettions les informations au public, car nous sommes le quatrième pouvoir.
La liberté de la presse est garantie par la Constitution du Kenya, mais l'Association des éditeurs de la presse affirme que le gouvernement tente d'interférer avec ce droit. La réaction à la couverture médiatique des récentes manifestations souligne ce défi, déclare sa présidente Zubeida Kananou. Certains médias sont la cible de campagnes de diffamation et de menaces de retrait de licence, dit-elle. Kananou, elle aussi, a reçu des appels et des messages menaçants.
Ils ont utilisé tous les moyens pour susciter la peur parmi les journalistes, dont moi-même, pour avoir dénoncé le gouvernement.
L'organisation Media Council of Kenya a recensé plus de 20 violations de la liberté de la presse commises par la police et les manifestants pendant le mois de juin. Ces incidents incluent des arrestations arbitraires, des agressions et des menaces. La journaliste de K24, Catherine Wanjiri, a été blessée à la jambe par des balles en caoutchouc alors qu'elle était clairement identifiable comme étant de la presse. Des journalistes, dont Elisabeth Motoko de TV47, affirment avoir été bannis du Parlement après avoir couvert la prise d'assaut du bâtiment.
Notre plus grande erreur ce jour-là a été de montrer aux Kenyans exactement ce qui s'était passé. Certains d'entre nous ont été qualifiés de criminels et on nous a dit qu'une enquête était en cours. Et notre question était, quelle enquête ?
Le président de l'Assemblée nationale a nié l'exclusion des médias du Parlement. Un porte-parole de la police a refusé de répondre aux sollicitations de la Voix de l'Amérique. Les appels et messages adressés au porte-parole du gouvernement sont restés sans réponse. Ce dernier a déclaré auparavant que le gouvernement n'avait aucun différend avec les médias. Des spécialistes de la sécurité comme Dina Ondari du Media Council estiment que la situation est frustrante. Le Kenya occupe la 102e place du classement mondial de la liberté de la presse et Reporters sans frontières souligne les risques auxquels sont exposés les journalistes qui couvrent la vie politique. Les lois kenyanes sur la liberté de la presse sont strictes, mais les experts estiment qu'une plus grande volonté politique est nécessaire pour garantir ces droits.
Le candidat républicain à la présidence, Donald Trump, et la vice-présidente Kamala Harris, candidate démocrate présumée, se sont attaqués l'un à l'autre pour tenter de séduire les électeurs indécis ici aux États-Unis. La course va encore s'intensifier à peine 3 mois avant le scrutin du 5 novembre. Véronica Balderas Iglesias de la VOA fait le point, le récit avec Lionel Gaïma.
À quelques 100 jours des élections générales américaines, le candidat républicain à la présidence, Donald Trump, a intensifié ses attaques contre la présumée candidate démocrate et vice-présidente Kamala Harris lors d'un rassemblement à St. Cloud dans le Minnesota.
Nous avons une nouvelle victime maintenant, Kamala. Nous avons une toute nouvelle victime et honnêtement, c'est une folle de la gauche radicale.
Kamala Harris a vivement réagi à la déclaration de Trump lors de sa campagne à Pittsfield, dans le Massachusetts.
Vous avez peut-être remarqué que Donald Trump a eu recours à des mensonges insensés sur mon bilan et sur certaines de ses déclarations et celles de son colistier. C'est tout simplement bizarre.
La campagne de Kamala Harris affirme qu'elle a récolté 200 millions de dollars depuis l'annonce du président Joe Biden, soutenant sa candidature et que 66% proviennent des donateurs novices. Le gouverneur de New Hampshire, Chris Sununu, un républicain, s'attend à ce que l'enthousiasme autour de la candidature de Kamala Harris s'estompe dans les 30 jours. Il conseille au duo Trump J.D. Vance de s'en tenir aux politiques au lieu de recourir à des attaques personnelles. Chris Sununu, gouverneur du New Hampshire, est apparu dimanche dans l'émission This Week sur la chaîne ABC.
Tenez-vous-en à ce qui motive l'anxiété. Les gens sont anxieux en ce moment parce qu'ils ne peuvent pas payer leurs factures. Ils sont anxieux parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité chez eux ou dans leur communauté. Ce sont les choses qui les pousseront à aller voter pour Trump en novembre.
Le gouverneur démocrate du Maryland, Wes Moore, a déclaré qu'il pensait que la vision de Harris pour l'avenir l'aiderait à convaincre les électeurs indécis dans les États clés. Wes Moore a également été interviewé dimanche sur ABC.
Je pense que ce que les gens disent maintenant, c'est que nous pouvons enfin avoir une conversation sur leur choix dans cette élection. Que les gens voient que ce n'est pas seulement la démocratie qui est en jeu. C'est aussi le fait que les valeurs fondamentales, la façon dont nous pensons aux libertés économiques sont en jeu.
Harris doit annoncer son choix pour la vice-présidence avant la Convention nationale démocrate prévue en août à Chicago. Kamala Harris a une semaine chargée devant elle avec une étape de campagne prévue à Atlanta, en Géorgie, et selon son site web, le ticket Trump organise aussi des événements de campagne en Pennsylvanie, au Nevada et en Arizona dans les prochains jours.
C'est ici que nous concluons cette édition du Monde aujourd'hui. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez à l'écoute pour plus d'informations et d'analyses sur VOA Afrique. Au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons une excellente journée au micro. Nanit Talani à la réalisation, Fatou Alimasi Kalala à la technique, Kelvin Fowler. Pour rester informé en temps réel, rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et suivez-nous sur nos réseaux sociaux Facebook, YouTube, X et Instagram.